La France a officiellement adopté la très controversée loi renseignement cette semaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce texte et les nombreux problèmes qu'il pose aux défenseurs des libertés, je vous invite vivement à réécouter l'émission en public que nous avions consacrée à ce qui était alors un projet de loi. Rappelez-vous aussi de ce que disait Jean-Pierre Dubois, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, au soir du 7 janvier 2015 sur le plateau de Mediapart et dans l'atelier des médias du 10 janvier.
Il y a un peu plus de 13 ans, d'autres attentats qui ont tué près de 3000 personnes ont parfaitement réussi. Parce que leur but était non seulement de tuer ces 3000 personnes, mais leur but était de nous faire tomber dans un piège. Et nous y sommes, nous. Nos pays y sont assez largement tombés. Il ne faudrait pas qu'il en sorte des patriotactes de ce genre de choses. Voilà. Je dis cela parce que c'est justement le but que cherchent ces gens. Ils ne supportaient pas la liberté de Charlie Hebdo, ils ne supportaient pas la liberté de la presse, ils ne supportent pas la liberté en général et ils ne supportent pas que les démocraties fonctionnent comme des démocraties. Et à chaque fois qu'on fait des patriotes, des Abu Ghraib, des Guantanamo, à chaque fois qu'on fait ça, c'est pas seulement là-bas qu'on développe la barbarie, c'est ici. Et le grand enjeu pour moi, il est là. Pas pour moi, pour nous tous et pour la Ligue collective.
L'atelier des médias. You are the La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Nous continuons cette semaine notre exploration du printemps médiatique avec trois initiatives portées par des acteurs établis. D'abord le Media Maker de Street Press, puis tous les internets d'Arte et enfin dans la deuxième partie, la revue du Crieur copilotée par Mediapart et les éditions de La Découverte. Le printemps des médias, c'est le constat que malgré la crise, les mutations, les interrogations sur l'avenir de la presse, des projets innovants, ambitieux sont lancés chaque jour en France et dans le monde. Si vous aussi vous souhaitez nous parler de votre jeune média au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ailleurs en Afrique ou même dans le monde, c'est très simple, atelier@rfi.fr. Dans presque une heure, c'est la chronique hebdomadaire de Francis Pisani.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Avant d'aller rencontrer l'équipe de tous les internets, on fait un gros plan sur une nouvelle initiative média portée par l'équipe de Street Press. Ce jeune magazine média urbain s'était déjà distingué par le lancement d'une Street School, une école de journalisme gratuite et ouverte à tous. C'était il y a 3 ans et demi. Aujourd'hui, l'équipe de Street Press lance un incubateur de médias innovants et citoyens. Bonjour Thibaut Delavigne.
Bonjour.
Tu es journaliste à Street Press et c'est toi qui coordonne ce nouveau projet. Explique-nous de quoi il s'agit.
Alors, Media Maker, c'est donc, comme tu l'as dit, un incubateur de médias innovants et citoyens. Nous, notre ambition avec ce nouveau programme, c'est d'avoir déjà une phase d'appel à candidature assez longue, puisque ça va durer, c'est lancé voilà, dès maintenant, et ça dure jusqu'au 31 octobre 2015. Il y aura pas mal d'événements qui seront organisés, notamment avec les médias partenaires.
Et peut-être avec l'atelier des médias aussi.
Et surtout avec l'atelier des médias. Donc, il y aura comme ça 10-15 événements qui seront organisés, sous des formes très diverses. Ça va aller de l'atelier à l'apéro un peu plus informel et détendu. L'idée, en fait, c'est de donner des clés, de donner des billes à un maximum de gens, puisqu'il suffit d'avoir entre 20 et 40 ans pour candidater à Media Maker.
On peut être candidat, qu'on soit du Sénégal, du Cameroun, de France, des États-Unis, du Canada, etc.
Voilà.
Il n'y a pas de limitation géographique.
Non. Par contre, ce qu'on va demander, c'est qu'à l'issue de l'appel à candidature qui se termine donc le 31 octobre, il y aura un jury d'une vingtaine de personnes qui va se réunir, un jury qui sera assez éclectique. Il y aura à la fois des journalistes, des patrons de presse, il y aura des gens qui sont spécialisés dans la publicité, il y aura des commerciaux, il y aura des marketeux. L'idée, c'est d'avoir un jury le plus vaste possible, parce que ce jury va devoir dénicher à l'intérieur de tous les projets qu'on aura amassés, les 3 projets les plus pertinents, selon les 3 critères qu'on a mis en avant. Le premier critère, c'est celui de l'innovation éditoriale.
Ça veut dire quoi, ça?
Avoir une envie de médias, c'est super chouette, mais on en a presque tous les matins en se rasant ou en étant sous la douche. Mais avoir une bonne idée de médias, c'est surtout savoir à qui on veut parler et qui a besoin d'informations. Si c'est pour nous proposer une copie des grands médias nationaux qu'on connaît, comme Le Monde, Le Télégraphe ou le Los Angeles Times, ça a assez peu d'intérêt, puisqu'on n'ira pas concurrencer ces gens-là. Mais par contre, un média très communautaire ou un média qui va vraiment s'adresser à une population qui a besoin d'un type d'information, ça c'est quelque chose qui va nous intéresser chez MediaMaker et chez Street Press, parce que c'est un peu aussi notre patte à nous, quoi. Donc ça c'est le premier critère. Le second critère, c'est qu'une fois qu'on a un public, il faut trouver un moyen de vivre en faisant de l'information.
Donc un modèle économique.
Et puis le troisième vecteur, c'est modèle économique et public. Et puis ensuite derrière, il faut un média. Est-ce qu'on va faire un site internet? Est-ce qu'on va faire une application? Est-ce qu'on va utiliser un support? Est-ce que ce sera simplement une page Facebook? Pourquoi pas un papier gratuit? Voilà.
Alors donc l'idée, c'est que vous ouvrez les candidatures dès maintenant jusqu'à la fin du mois d'octobre.
C'est
donc
ça.
Il y a beaucoup de temps. Les gens doivent vous envoyer des projets de médias. Donc ils veulent lancer un site, un magazine papier, etc.
C'est ça.
Vous allez réunir une vingtaine de spécialistes qui vont juger des projets qui seront envoyés et en sélectionner trois. C'est ça.
C'est ça. Les trois
et donc
projets.
C'est là que s'ouvre ce que vous appelez un incubateur. Qu'est-ce que c'est
ça? C'est là où MediaMaker rentre dans sa phase dure, entre guillemets. C'est-à-dire que les trois projets et donc les trois équipes qui seront formées autour de ces trois projets vont être hébergées, suivies, coachées, encadrées par les équipes de Street Press et de Citizen Press, qui est le pendant associatif de Street Press. Pendant trois mois, on va faire un mentoring assez poussé de ces trois projets. Et puis, à l'issue de cette phase de mentoring qui nous amène donc à l'horizon février-mars 2016, eh bien, on a notre partenaire Ulule.com, qui est cette plateforme de financement participatif, qui va prendre en charge les trois projets en étant partie prenante de tout le mentoring sur toute la période. Via Ulule.com, on va essayer de lancer ces trois projets en financement participatif.
C'est-à-dire en demandant aux gens de les financer
si ça leur plaît.
Par petits morceaux.
C'est ça, exactement.
Dernier mot, vous dites un incubateur citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire citoyen dedans? C'est le projet média qui doit être citoyen ou c'est le fait que vous fassiez un incubateur qui est un acte citoyen?
Nous, ce serait très pompeux de dire qu'on fait un acte citoyen en créant un incubateur, mais la partie citoyenne, elle est liée à la partie éditoriale. C'est-à-dire que l'innovation, elle se fait, si vous prenez par exemple le fonds Google, l'innovation, elle se fait sur un critère purement économique. Il faut trouver de nouveaux moyens de gagner de l'argent. C'est évidemment important d'avoir des moyens pour faire vivre son média, mais ce qui est aussi important, c'est la partie citoyenne, c'est-à-dire quel type de citoyen a besoin de quelle information et comment je viens combler ce vide ou en tout cas amener un peu plus de billes à une partie de la population qui en a besoin. C'est plus là-dessus.
Merci Thibaut.
Merci à toi.
Pour plus d'infos, c'est sur le site de Street Press ou vous avez créé un sous-site? Vous avez
Alors,
fait quoi?
Sur streetpress.com évidemment et puis mediamaker.fr, tout attaché.
Et donc là, on trouvera toutes les informations pour présenter son dossier.
Exactement.
À bientôt.
Salut.
RFI.
À suivre le reportage de Mélissa Barra sur tous les internets, l'émission d'Arte qui raconte nos sociétés à travers les usages du web.
Ouh, les meilleures photos d'animaux avec un chapeau. Clic. Les 100 meilleures chutes de tous les temps. Clic.
We wanted to make the invisible visible.
Make it more beautiful and make you see your data in a way that you never thought about.
Even more paradoxically, my cancer stopped being about me.
Je m'appelle Julien Lebot, je suis journaliste et réalisateur et en l'occurrence je travaille sur le projet Tous les Internets qui est un magazine, une sorte de magazine en ligne, coproduit en fait par Première Ligne et RT avec une sorte d'objectif très précis qui est de dire on va faire un tour du monde vu du web.
Donc le web c'est un sujet extrêmement vaste. En quoi Tous les Internets se démarquent des autres magazines qui sont dédiés à l'Internet?
Je dirais que déjà on parle pas du web, en fait on part du web pour évoquer des histoires qui se passent sur place. Donc j'ai l'impression de dire que c'est quasiment un parti pris un peu esthétique et puis il y a aussi peut-être un côté un peu coquet qui est de se dire par quel angle en fait on va aborder les histoires. Et bien en fait c'est notre point d'entrée dans l'information, mais une fois qu'on se dit que par l'internet on a interviewé une personne et qu'on s'accroche à son usage, on va parler de ce qui se passe derrière. En allant en fait à la pêche aux histoires sur Skype, on va aller rencontrer des personnes en Iran, au Liban, en Égypte, on peut aussi aller aux États-Unis, on peut aller au Mexique, on peut aller juste jusqu'à Hong Kong, pourquoi pas. Et l'objectif, c'est via leur usage du web et de l'internet, réussir à parler des sociétés qui sont derrière.
Quand tu dis usage du web, c'est des gens qui font quoi avec le web ?
Alors justement, pour en avoir différents usages, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à l'utilisation des data, ça peut être lié au fait que par la cartographie, on se réapproprie son environnement, sa ville. L'objectif, c'est de comprendre ce que les gens font, et ça nous permet de parler derrière tout ça, en fait, de ce qui est en toile de fond, précisément, de ces sociétés. Exemple, on est allé à la rencontre, par exemple, de Daniel, qui a présenté son chat aux élections au Mexique, aux dernières élections, qui se déroulaient le 7 juin dernier, et en fait, avec ce chat, c'est une façon, en fait, tout simplement de dénoncer un système qui ne marche plus, un système, pour ainsi dire, corrompu, et puis, en fait, en ayant une page Facebook très active, en ayant un personnage qui, un chat, en fait, qu'on présente aux élections, ça permet simplement de signifier très explicitement le ras-le-bol des internautes, et plus généralement des citoyens mexicains à l'endroit d'un système qui ne fonctionne pas ou plus. C'est le web qui transforme souvent les situations. Donc en fait, on ne parle pas du web pour parler du web, on part d'une utilisation du web pour parler du fonctionnement d'une société, d'un usage qui est lié, pourquoi pas, à une croyance, à une pratique linguistique, au rire, à l'amour, la fidélité, que sais-je. Enfin, réussir tout simplement à partir de ce qu'on fait du web pour comprendre quels sont tous ces internets et donc tous ces mondes qui se cachent de l'autre côté des tuyaux.
Donc revenons un peu en arrière, comment est né le projet ?
À l'origine, il y a eu le souhait très fortement exprimé par Arte, en fait, qui était de faire vivre en un certain sens le portail Arte Info et puis de dynamiser en fait la façon dont en ligne Arte était en mesure de faire remonter un certain type d'informations. Et puis donc ils se sont adressés, ils sont tournés vers Première Ligne ici, qui est une boîte de production qui habituellement fait plutôt de l'audiovisuel. Vous connaissez sans doute Cache Investigation, Spécial Investigation, enfin tout un tas de formats audiovisuels qui sont plutôt liés à la télé initialement. Et là, l'idée, c'était de basculer sur le numérique en ayant une approche audiovisuelle et numérique, c'est-à-dire trouver une façon de faire parler des gens, de les voir, en fait, de l'autre côté de l'Internet, et puis en même temps d'en faire un projet spécifiquement web. On est à la fois une petite et une grande équipe, on est dans une boîte de prod, donc on a par exemple une monteuse qui nous aide sur certaines étapes, on a un directeur de prod, mais qui gère aussi d'autres projets par ailleurs, et par contre, le cœur éditorial de l'équipe, puisqu'on est avant tout un magazine, c'est deux co-réalisateurs, donc moi et Julien Goethe, et puis vous avez, bah, là, on les voit, on les aperçoit de l'autre côté de la pièce. Donc on a Charles-Henri Groux et Marion Guénard qui sont les journalistes enquêteurs. Et puis on a également donc deux community managers. J'ai envie de dire, dans les 6 derniers mois, tout s'est accéléré. On a commencé à penser à une plateforme. Julien Goethe, qui était au départ l'auteur de ce projet, a commencé à poser les bases de tout ça. Il y a eu une première interface qui a été développée avec un back-office spécifique, ce qui nous permet en fait aujourd'hui, en tant que petite rédaction, de travailler en faisant des interviews. On a donc un montage, et puis une deuxième phase de montage qui correspond en fait à tous les contenus additionnels qui remontent à l'écran pendant l'interview. Donc en gros, sur les 3 derniers mois, pour continuer sur cette idée de rétro-planning, on a fait des interviews, on a pensé à la façon dont on allait mettre en scène et les mettre surtout en contexte pour que la personne qu'on interview à Hong Kong puisse entre guillemets nous faire remonter tout ce dont elle parle.
On peut bien voir qu'il y a 2 champions de la corruption. Le premier, c'est le ministère de l'Intérieur, du point de vue nombre de pots de vin. Et de l'autre, le ministère des Finances, du point de vue quantité. Si on peut imaginer la corruption comme étant un business, le but de Sakelebekele, c'est justement pour que ce business fasse en route.
Les internets, donc ce sont plusieurs sujets. Vous avez choisi de faire des sortes de micro-rencontres, des interviews qui font penser un peu à du Skype. Pourquoi ce format ?
Alors effectivement, c'est du Skype. Le principe, c'est de se dire que Skype est l'un des outils communs en fait pour échanger sur l'internet. Et donc on s'est dit qu'en gardant ce parti pris visuel à la fois fort et simple, à la fois moche et courant, c'était un parti pris de départ qu'on allait ensuite habiller. Donc en fait, ça nous permet tout simplement d'avoir un environnement relativement quotidien et familier pour n'importe quelle personne. Et puis, par-dessus ça, après, nous, on monte, on échange et on met en contexte. Et précisément, l'un des enjeux en ce moment pour nous qui est très sympa et très intéressant en tant que petit magazine qui se monte, c'est d'approcher et de fabriquer ça en mode bêta, c'est-à-dire que chacune des interviews a été faite avec un format relativement bien défini, une interaction entre le montage vidéo et les contenus additionnels qui apparaissent à l'écran qu'on a globalement, nous, mis au point. Je prends un exemple tout simple. simple, on a interviewé un personnage qui s'appelle Josh, qui vit à Kibera, c'est un bidonville en fait qui est au Kenya. En fait, en l'interviewant par Skype, il nous raconte la façon dont, grâce à la carto, ils sont sortis de la forêt, c'est-à-dire que les cartes officielles montrent que Kibera est une forêt, en fait non, pas du tout, c'est un bidonville, il y a beaucoup de gens qui y vivent. Et donc en fait, en même temps qu'il nous explique son histoire et la façon dont la carto leur a permis en fait de se réapproprier leur existence et de signifier le fait qu'ils existaient, qu'il y avait des gens qui vivaient sur place, des familles, qu'il y avait des écoles, qu'il y avait des quelque part des formes de services publics, et bien en fait en le cartographiant et en interviewant, il nous explique ça et hop, à l'écran, on fait apparaître toutes les petites traces matérielles de l'existence de bidonville. Des photos sur Flickr, des extraits des cartes qu'ils ont constituées, des reportages qui ont été produits sur ce qui a été fait sur place. Donc, en un certain sens, il y a presque une dimension, pour parler pompeusement, d'open source intelligence. C'est-à-dire, on fait une interview et on regarde sur la toile tous les éléments qui nous permettent de mettre en contexte cette vie, en fait, et ce projet, en fait, qui se déroule sur place. Change your heart, look around you.
Vous avez par exemple interviewé Alexandra Kojabashi. Elle est activiste au sein de l'ONG libanaise Saker El Dekene. Elle a créé une cartographie pour répertorier les cas de corruption au Liban et montrer les volumes monétaires que ces pots de vin drainent. Alors pour toutes ces rencontres, vous avez choisi d'utiliser Skype. Pourquoi ce format ?
C'est une forme chronologique et interactive, c'est-à-dire qu'on a un montage, on le séquence généralement en 4-5 chapitres. Le tout fait environ 5 minutes, qui est un format un peu ovni sur le web, mais on teste puisqu'on est en mode bêta. Et puis par-dessus ça, vous avez une sorte de timeline, donc de frise qui permet de suivre le déroulé de l'interview. Et à mesure que le personnage, en traversant les chapitres, nous explique d'où vient l'idée, quel est le contexte local et d'où il s'inspire et peut-être ce que peuvent faire les personnes, et bien à ce moment-là, nous, on fait remonter des petites infos qui apparaissent en fait sur la timeline, avec aussi bien des mises en contexte locales que des analogies avec peut-être entre le Kenya et puis ce qui peut se passer ailleurs, mettons au Népal, et puis finir avec une, pourquoi pas, une dimension un peu d'empowerment, c'est-à-dire que si grâce à la carto tu peux te réapproprier ton environnement, pourquoi pas aider les gens à comprendre quels sont les outils qui ont permis de transformer comme ça la situation localement, avec toutes les limites que ça a, puisqu'évidemment c'est pas parce qu'on fait de la carto qu'après le destin de tout un bidonville change, mais malgré tout on s'efforce de créer, de structurer la conversation autour de cet usage de l'internet quelque part, et qui peut être utile à d'autres internets ailleurs.
Donc vous cherchez à montrer un peu aux internautes la personne physique qui se trouve derrière la personne virtuelle, c'est ça ?
Je ne sais pas si on... Il n'y a pas de personne virtuelle, enfin c'est des vraies personnes. Je ne sais pas si d'ailleurs une fausse personne ça existe, mais en revanche, oui, il y a cette dimension un peu d'intimité pour ainsi dire. C'est-à-dire que quand on parle avec un personnage italien qui est aussi un artiste, qui a eu un cancer étant jeune et qui met en ligne son dossier médical pour permettre aux internautes de l'aider à affronter la solitude de la maladie, l'idée c'est qu'effectivement on va chez lui, on est avec lui et il parle avec l'internaute comme si finalement il parlait à tout le monde. Enfin, on essaie de créer la condition ou les conditions de cette conversation. Donc on va à la fois vers l'intimité de la personne et de son histoire, et dans le même temps, nous, après, on rassemble tous les éléments qui permettent de mettre en contexte cette histoire et de donner un peu plus d'éléments pour nourrir la conversation.
Vous parlez de conversation, mais on a plus l'impression qu'en fait, c'est l'internaute qui s'immisce dans la vie, on va dire, de la star de l'internet, mais il n'y a pas de conversation dans l'autre sens.
On amorce pour l'instant ce qu'on aurait envie de construire comme étant une vaste conversation. L'objectif, c'est que la plateforme, qui est donc hébergée par Arte, est l'un des éléments de cette conversation qu'on essaie d'orchestrer. Donc on évite d'être dans le top-down qui est, on trouve une histoire, on la raconte, on la pousse en ligne, c'est fini. C'est plutôt, on identifie une histoire qu'on trouve intéressante, on la met en contexte, on utilise la plateforme pour la valoriser, mais la discussion peut après se prolonger ou sur la plateforme elle-même, ou au-delà sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, on est vraiment sur une phase bêta qui permet de structurer l'outil d'un conversation. Et après, il y a ce souci et cette envie de dérouler cette expérience et ce dialogue entre les internets qui nous permettrait de passer de la Corée jusqu'au Chili sans qu'on ait l'impression que ce soit complètement artificiel. Au contraire, via des expériences individuelles, créer les conditions de la compréhension de ce qui se passe de l'autre côté du globe et des tuyaux.
Dans chaque chose, il y a un cœur qui bat, sauf chez les méduses, les zombies et les avocats. Regarde au fond de toi, Internet, tu verras, y a aussi un enfant en toi. Ce petit garçon a un cœur comme toi, seulement on l'oublie ou on ne le voit pas. Dans chaque chose, il y a un cœur qui bat, tu en as un aussi au fond de toi. Allez, petit Internet, sois un peu sympa.
courte pause dans l'atelier. Rendez-vous dans quelques instants avec Joseph Confavreux, journaliste à Mediapart et rédacteur en chef de la revue du Crieur qui vient d'être lancée. Une revue d'enquête sur les idées et la culture. Atelier des médias, c'est l'été depuis quelques jours en Europe, mais pour les médias, c'est aussi le printemps. Les projets, initiatives, innovations bourgeonnent partout dans le monde, malgré ou peut-être à la faveur de la crise que connaît la presse depuis une dizaine d'années. On retrouve dans une vingtaine de minutes Francis Pisani pour sa chronique hebdomadaire, mais avant cela, nous vous faisons découvrir une nouvelle revue portée par le site Mediapart et par les éditions La Découverte, la revue du Crieur.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous,
Bonjour Joseph Confavreux.
Bonjour Ziad Malouf.
Tu es journaliste à Mediapart, tu as eu une carrière aussi à la radio, à Radio France. Tu étais notre voisin à l'époque où nous étions dans la maison de la radio. Et au sein de Mediapart, tu es rédacteur en chef du Crieur.
La revue du Crieur, effectivement. Une proposition de La Découverte, des éditions La Découverte, de s'associer avec Mediapart, journal numérique. Ce qui n'allait pas de soi complètement au départ, mais voilà, c'est fait.
Une revue d'enquête sur les idées et la culture. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde des idées et de la culture, il plane pas au-dessus de nos têtes. Il s'incarne dans des institutions, des trajectoires, des personnes, des financements aussi. Et que souvent, on le traite soit sur le mode du grand débat d'idées, soit sur le mode de l'actualité culturelle. Et
qui est beaucoup de la promotion, hein,
l'actualité souvent
culturelle.
La promotion. Ouais. Donc, de répondre à ça avec ce qui fait un peu l'ADN de Mediapart, c'est-à-dire l'investigation. C'est un champ qui a une influence, qui a une influence politique, qui a une influence bien sûr culturelle, et qui est rarement traité comme ça. Donc, on s'est dit qu'on pouvait, pour ça, essayer de faire travailler ensemble des chercheurs et des journalistes. Voilà, l'édition La Découverte étant une maison d'édition sciences humaines, et Mediapart étant un journal numérique.
Et pourquoi avoir choisi de faire un projet à l'extérieur, ou en plus de Mediapart ? Mediapart, c'est déjà une plateforme qui a son audience, où vous pouvez publier des enquêtes, vous le faites déjà beaucoup sur la vie politique, sur l'étranger, etc. Pourquoi avoir choisi de faire un tiré à part, de faire une revue à part ?
Ah ouais, c'est pas complètement tiré à part, au sens où il y a deux articles qui sont écrit par des journalistes de Mediapart.
Dans ce numéro 1.
Dans ce numéro 1, il y en aura à chaque fois, c'est ça le contrat, et ces articles-là sont aussi dans Mediapart. Comme on est quand même associé avec une maison d'édition papier, eux, ils vendent encore des livres. Donc déjà, à partir du moment où on fait une association, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait
oui,
faire.
Oui, mais il y avait
ça.
L'envie de créer un objet, de créer une revue papier en dehors du projet internet web qu'est Mediapart.
Oui,
quand même.
Parce que je pense que le journalisme culturel, il souffre donc des fois de la promotion, des compromissions, mais aussi du flux. Et que des fois, un peu s'arrêter sur des plus longs articles en papier, c'est aussi une manière de se concentrer et aussi d'atteindre peut-être un public qui ne lit pas Mediapart, parce que justement, c'est quand même identifié aux affaires financières, aux affaires politiques, et que certaines personnes à qui on s'adresse, parce que en faisant cette revue du Crieur, on a assez envie que les gens qu'on interpelle, parce qu'il y en a dedans, hein, des artistes, des éditeurs, tout ça nous lisent, et que cette revue soit dans les librairies des villes et ailleurs, voilà, c'est aussi une manière de s'adresser peut-être à un public qui sinon n'irait pas sur Mediapart.
Tu parles de journalisme culturel, mais cette revue est un petit peu à la frontière entre la revue journalistique et la revue j'ai envie de dire universitaire ou académique avec des auteurs qui sont à la fois des chercheurs et des journalistes.
Ouais, en fait nous on est parti d'une double urgence, une urgence politique qui était que quand même on voyait triompher les idées les plus nauséabondes ou au moins les voir progresser, et donc on avait envie de mener la bataille des idées, voilà, là c'est sur le côté comme ça, et face à une situation qui nous semble être assez grave par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire pas forcément un truc de universitaire, on voulait pas être dans l'universitaire, c'est-à-dire qu'on a demandé, effectivement on fait venir des chercheurs, mais on leur demande d'écrire quand même de manière lisible, parce que pour nous il y a un peu une forme de démission du monde universitaire, du monde de la recherche, qui se concentre sur ces disciplines aussi pour des raisons extérieures, on sait ce qui est devenu l'enseignement supérieur, mais qui du coup réserve le soi-disant débat public à des invectiveurs professionnels qui font plus grand chose, et donc vu le constat de droitisation des fois du monde intellectuel, de trahison de certains clercs et de démission d'autres, on avait envie de dire il faut se donner un lieu de pensée qui soit solide, sans être universitaire.
L'article d'ouverture, je ne sais pas si on doit l'appeler comme ça, est consacré à l'intellectuel français, historien, philosophe Marcel Gauchet. Il a pour titre « Marcel Gauchet ou le consensus conservateur enquête sur un intellectuel de pouvoir ». On peut dire que c'est un article à charge contre cet intellectuel, contre cette personnalité.
C'est un article à charge, mais qui est pas sur le mode oh lèche bien descendu, voilà, qui peut être aussi une partie de la critique culturelle que dans laquelle on n'est pas. C'est pour ça qu'on insiste sur l'idée des enquêtes. Je vais faire mon snob et citer Hannah Arendt, qui disait que la liberté d'opinion, le débat d'opinion était une farce si on n'avait pas de garantie sur les faits eux-mêmes et si c'était pas les faits eux-mêmes qui étaient l'objet du débat. Et pour nous, évidemment qu'il est à charge parce qu'on a découvert sous le personnage assez une faconde assez centriste, on va dire, voir quelqu'un à gauche, quelqu'un qui avait des stratégies de dissimulation, qui ne disait pas la même chose dans tous les espaces où il s'exprimait, et qui est quand même dans une position de pouvoir assez forte. On pourrait se dire Marcel Gauchet, après tout, bon, voilà, qui sait, et tout ça. Sauf que c'est quelqu'un qui, avec sa revue Le Débat, a un agenda politique et intellectuel, qui a des positions de pouvoir à l'École des hautes études en sciences sociales, qui aussi émarge dans nombreux think tanks, voire quelques...
Les think tanks, ce sont des lieux où on conseille des entreprises, des politiques, des choses comme ça, on réfléchit ensemble.
Et les deux jeunes historiens qui se sont penchés sur son cas ont...
Ludivine Bantigny, Julien Théry
et Julien Théry-Astruc ont vraiment lu Kant. On découvre sous le personnage un homme de pouvoir et un homme de pouvoir avec un agenda conservateur voire réactionnaire. C'est ce que je vous disais, c'est qu'on est quand même dans un moment où on pas se permettre de voir des gens qui se revendiquent de gauche finalement endosser les thématiques de la droite voire d'une droite dure et les reconditionner avec peut-être un aspect voilà moins agressif mais quand même dangereux. Évidemment, on est tout à fait prêt à continuer le débat avec eux. Cette revue, elle veut cliver quand même. Enfin voilà, elle veut pas cliver pour cliver, mais elle pense que on peut plus aujourd'hui être dans cette espèce de consensus mou qui en fait est un consensus pour nous dangereux, et donc qu'il faut, quand il y a des vrais clivages, les redonner à voir, les redonner à penser.
Et cette revue, en plus donc d'égratigner ces deux personnalités autour de débats d'idées, hein, ce sont pas des attaques personnelles, etc. Et puis ça s'appuie
sur leurs écrits, une droitisation du champ intellectuel. C'est pas Marcel Gauchet ou Michel Onfray. Qu'est-ce qu'ils ont les personnes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils achètent au magasin? C'est qu'est-ce qu'ils représentent? Et quelles sont leurs trajectoires?
Cette revue explore toute une série de sujets et ça a été une envie d'équipe d'en parler parce que Simon, qui travaille avec moi, va passer de l'autre côté du studio pour nous proposer une fiche de lecture personnelle de la revue du Crieur.
Ah bah tant mieux, mais du coup il lâche les manettes. Mais quelqu'un d'autre prend les manettes.
Guillaume Floquin de l'émission Autour de la question le remplace quelques instants.
Bonjour, Joseph Confavreux. Je n'ai pas l'habitude d'encenser les invités, non pas que je sois avare de compliments, mais parce que j'ai ce luxe que les auteurs de Crieur ont également, me semble-t-il, de ne parler que des choses qui attirent ma curiosité, suscitent chez moi l'excitation. Lundi matin, premier café à peine bu, Ziad dépose sur mon bureau 160 pages d'arbres coupés. Tiens, Mediapart et La Découverte viennent de sortir une revue d'enquête culturelle. Je ne vous cache pas qu'en 2015, me parler d'une nouvelle revue à 9h du matin a autant d'effet que de me parler politique pendant mes vacances en Corse. Ce n'est que plus tard dans la soirée, en m'installant dans mon canapé, que j'ai trouvé ce fameux temps de cerveau disponible, celui-là même que vous laissent vos enfants, une fois couchés. Alors d'abord, parlons du titre et de sa couverture. Comment ne pas comprendre que la revue du Crieur n'est pas un énième produit dérivé informatif? Pour mémoire, le personnage du Crieur, ce sont ces gens qui colportaient l'information dans les rues avec leur voix, les ancêtres de la radio. Le Crieur, donc, est l'effigie historique du site de Mediapart et des éditions La Découverte également. Difficile de croire donc que ce symbole ait pu être utilisé à la légère, sans ambition. L'illustration de la couverture est épurée, j'ai compté pas plus de 6 couleurs, beaucoup de jaune, et ce personnage du Crieur qui, sous un titre massif écrit en rouge, annonce le menu de ce premier numéro, c'est très réussi. Et là, je dois vous faire une confidence. J'ai rarement lu sommaire qui soit autant en phase avec mes envies. Dans la tête de la NSA, ce que l'argent fait à l'art, Google et la presse, spectre du fascisme, le pseudo-complot Illuminati, Confucius, retour vers le futur. Avouez-le, Vous avez siphonné mes profils sur les réseaux sociaux et la version reçue au bureau n'est pas la même pour tous.
C'est comme, vous savez, les coups sur l'immobilier des magazines qui s'adaptent à chaque ville.
C'est comme ça. C'est vraiment flippant. Même si la place de l'image est mineure dans cette revue, on y trouve quand même une série de photos sur l'engraissement animal à vous donner le vertige. Là, je dis bravo. Je m'attarderai enfin sur cet irréprochable dossier sur la NSA écrit par Grégoire Chamaillou. Grégoire, j'en ai lu des articles sur la NSA, les écoutes, le big data, mais là, c'est intéressant, c'est bien raconté, documenté. J'ai l'impression d'avoir plus appris en un article qu'en 20 articles vite fait, mal fait. Histoire de vous donner envie, voici comment commence l'article. 6 juillet 1962, base NAFAC, île de la Barbade. Dans un bâtiment gris planté au pied d'un phare en pierre surplombant la mer des Caraïbes, un militaire scrute les lignes que trace face à lui, sur un énorme rouleau de papier, le stylet d'une sorte d'électrocardiogramme géant. Nous sommes dans l'une des bases secrètes du réseau SOSUS, pour Sound Surveillance System, mis en place par l'US Navy dans les années 50. Et comme je ne voudrais pas passer pour le plus flatteur des flagorneurs, j'ai envie de vous dire... Dites donc, 3 numéros par an, c'est pas avec ça que vous allez faire un burn-out ?
Sachant qu'on a tous, enfin moi, ça m'a, je suis pas délégué de Mediapart pour m'occuper de la revue du Crieur, ni Rémi Toulouse, qui est le rédacteur en chef côté La Découverte, n'arrête pas de faire des livres. Donc bon, c'est quand même un peu du boulot en plus. Moi personnellement, s'il y a autant de boulot sur les numéros 2, 3 et 4 que sur celui-là, je pense que j'arrêterais. Mais parce que là, il fallait faire une maquette, effectivement. Donc on peut rendre hommage, c'est Agnès Dahan qui a fait ça. Et moi, je suis super d'accord sur votre. Enfin, déjà, je suis très d'accord avec votre chronique. C'est super, vraiment, voilà. Et non, mais je suis assez d'accord. Pour moi, l'article de Grégoire Chamaillou, il est important parce que c'est exactement ce que j'aimerais que moi, avant de passer par le journalisme, effectivement, par la radio, comme le racontait Ziad. Moi, j'ai commencé une thèse, j'ai passé mon agrégation d'histoire, tout ça.
L'école normale supérieure.
Et c'est vrai que si j'ai quitté, bon, c'était pour des raisons personnelles, parce que j'aimais pas trop l'archive finalement, mais aussi parce que il y avait dans la recherche, quelque chose, il y avait peu de gens qui étaient capables de faire, comme Grégoire Chamaillou, deux choses que je trouve essentielles, c'est-à-dire raconter la théorie. Et c'est là où il est très fort. C'est que quand même, il avait fait avant une théorie du drone aux éditions de La Fabrique, qui est un grand livre. Donc vraiment, c'est que il a une manière. Effectivement, dans son article, il y a des choses qu'on sait déjà, mais il avance en vous donnant l'impression que vous comprenez quelque chose. Et par ailleurs, il applique. Lui, c'est un philosophe. Moi, je l'ai rencontré. Il se trouve effectivement à l'école normale. On se connaît depuis assez longtemps. Il applique des outils de la philosophie qui, pour moi, voilà, des fois, la philosophie théorique, c'est pas mon centre d'intérêt.
Ça peut paraître très abstrait,
et lui, il les applique au drone, à la NSA. Je crois que là, il travaille sur le nouvel esprit du capitalisme. Voilà, à ce qui nous entoure, à ce qui nous fait. Et ça, moi, si on pouvait avoir beaucoup d'articles comme ça, je serais ravi.
Pour revenir sur cet article, le passage que vient de lire Simon, c'est l'introduction du sujet, et il explique, donc, en plongeant dans cette réalité des années 50, où on essayait de suivre les sous-marins en écoutant les mers, donc en voyant un peu les vibrations, etc. Il raconte comment ça a donné par la suite cette idée d'écouter le monde, d'écouter les réseaux, etc. Et que c'est pas fortuit, c'est-à-dire que c'est pas une image, c'est-à-dire les personnes qui ont eu l'idée d'écouter le monde avec la NSA et d'écouter les signaux du monde viennent directement de ceux qui écoutaient la mer pour détecter les sous-marins.
Ouais, qui étaient souvent d'anciens amiraux ou des gens qui bossaient dans l'US Navy. Exactement. Et
ça explique leur logique, en fait, qui est en même temps absurde. Et ils montrent à quel point leur logique est absurde.
Parce que ils citent, c'est ça qui est bien, c'est que c'est vrai que nous on prend enquête au sens large. Vous m'interrogez là-dessus. Il y a des enquêtes vraiment type Mediapart sur l'art et l'argent, des journalistes qui vont voir une quinzaine de personnes, Grégoire Chamaillou là dans son article sur la NSA, ce qu'il a plutôt fait, c'est se plonger dans la littérature grise de la NSA, aller voir alors dans les documents de révélés par Edward Snowden, des choses comme ça. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est quand il cite, je crois, un directeur de la NSA qui dit « Bon, maintenant, on va plus chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est-à-dire un sous-marin soviétique dans l'océan. On va collecter toute la botte de foin et après, on va voir si on trouve une aiguille ou si on trouve autre chose. » Parce que nous, notre idée, c'est que c'est pas une revue culturelle ou intellectuelle, c'est-à-dire c'est pas que des enquêtes sur les intellos patentés ou le monde de la culture officielle, c'est que les institutions pensent. La manière dont la police agit, il y a une pensée de la police, il y a une pensée de l'armée. Et c'est ça, pour nous, l'article de Grégoire Chamaillou et qu'on aimerait faire dans d'autres moments, c'est savoir comment pensent les institutions qui nous entourent et des fois nous écoutent.
Il y a également un article qui est consacré à l'art contemporain et sa relation avec l'industrie du luxe en particulier, qui explique donc comment on passe d'un mécénat à une relation très ambiguë où on comprend plus trop où sont les limites, où les gens font des œuvres qui coûtent des millions à produire parce qu'ils savent que ça va générer des coûts, qu'ils s'appuient sur des maisons de production. En gros, on comprend que le monde de l'art contemporain est un petit peu embarrassé par cette alliance.
Ou pas du tout embarrassé, ça dépend lesquels.
Il y en a qui... Et qu'en tout cas, il y a une omerta parce que personne n'a envie de se fâcher avec les mécènes, avec les personnes, les collectionneurs qui sont capables de payer plusieurs centaines de millions d'euros par an pour acquérir des œuvres.
Alors exactement, donc c'est un article de la journaliste Marion Rousset. C'est pas un hasard s'il est dans ce premier numéro. C'est vrai que donc ce projet il s'est élaboré à l'automne dernier. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le journalisme culturel, qu'on trouve des fois soit que dans la promotion, soit dans le flux de l'actualité culturelle, mais soit dans la grande compromission. Et il se trouve que à l'automne dernier a ouvert la Fondation Vuitton, LVMH,
région parisienne,
dans le bois de Boulogne, Paris, de Bernard Arnault, et qu'il y a eu un tombereau d'articles de presse élogieux sur cet oiseau de verre de Franck Guéry posé comme un don aux Parisiens. Bon, après, on peut penser ce qu'on veut du bâtiment de Franck Guéry. Moi, je le trouve un peu répétitif par rapport à son travail comme ça. Mais on inaugurait quand même un musée vide. Enfin, parce qu'il n'y avait pas encore la collection de Bernard Arnault sur laquelle on ne savait pas grand-chose. Et on avait quand même un déluge d'articles élogieux. Et il était difficile de pas faire le lien entre ça et le fait que Bernard Arnault est le premier annonceur des journaux français. Voilà. Donc, dès là, on s'est dit, bon, il y a un sujet aujourd'hui sur le journalisme culturel. Pour venir précisément, c'est de ça dont on est parti pour faire ce que l'argent fait à l'art. On sait maintenant le poids de quelqu'un comme Pinault, comme Arnaud, de ces nouveaux milliardaires collectionneurs, mécènes ou plutôt sponsors, parce que il y a toujours eu un marché de l'art, il y a toujours eu de l'argent dans l'art. Mais là, on est dans entré dans un nouveau régime où c'est de la spéculation, souvent, c'est de la spéculation des fois défiscalisée, qui s'introduit dans même les écoles d'art, c'est-à-dire que dès l'école d'art, on vous entraîne à négocier avec une marque, et ce que raconte Marion Rousset, c'est à quel point ce nouveau régime du merchandising, de l'arketing, on dit parfois maintenant, c'est-à-dire où l'art sert les marques, peut désactiver la fonction notamment critique de l'art.
Et puis en plus, ce qui est expliqué, mais on va pas entrer dans les détails, c'est que ils ont une telle puissance financière que et on les suit maintenant pour voir les cotations des artistes, qu'ils peuvent les créer totalement les cotations, et du coup ça rend l'ensemble un peu irréel.
C'est là que je parle de spéculation, et parce qu'ensuite ils ont une telle puissance même maintenant par rapport aux grandes institutions publiques où on pouvait quand même penser que, je dirais, la part marchande était moins importante que la part de critique d'importance. Mais aujourd'hui, les institutions publiques se trouvent être à la remorque de ces grands collectionneurs privés. On l'a vu, une exposition comme Jeff Koons récemment au Centre Pompidou à Paris n'aurait pas pu être organisée sans l'aide de François Pinault. Mais du coup, ça valorise encore, si c'était besoin, Jeff Koons, parce qu'il a eu sa grande rétrospective à Beaubourg. On dit pas qu'il faudrait un art purement déconnecté de toute question marchande. Mais là, aujourd'hui, c'est plus des interactions, c'est de la domination.
Parmi les autres sujets, pour donner une idée, il y a aussi donc Google et la presse française, signé par un journaliste de Mediapart. Il y a aussi un article qui analyse le concept du fascisme aujourd'hui, son emploi dans les médias, et qui propose le concept de post-fascisme, qui, aux yeux de l'auteur, est plus intéressant pour décrire et la montée des extrêmes droites dans les différents pays européens, et la montée de mouvements qu'on dit fascistes, comme l'organisation de l'État islamique et des aspects comme ça. Et finalement, ce qu'on pourrait trouver de commun à la plupart des sujets qui sont traités, c'est une forme de révolte. Simon disait le crieur, c'est le symbole du crieur qui distribue les journaux, qui annonce les nouvelles, etc. C'est votre logo. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un de révolté et qui a envie de montrer un ras-le-bol de ce qui est en train de se passer dans le monde intellectuel, dans la manipulation des idées, dans le fait qu'on réfléchit peut-être plus assez sur tout ce qui est en train de se passer dans ces domaines.
Oui, je pense que vous avez raison, il y a une forme de colère. On est parti quand même d'une forme de colère sur voilà, je l'aurais dit, une forme de trahison d'éclair, une inquiétude. Vous parlez de l'article sur les formes de radicalisation des droites européennes qui vont être à la fois gay-friendly, mais en même temps avoir de nouveaux, de nouvelles cibles, notamment les musulmans. Alors, je ne sais pas si c'est la révolte, mais en tout cas, il y a une inquiétude. Et cette inquiétude, plutôt que de se prostrer, on s'est dit que, voilà, on pouvait en faire quelque chose et essayer de diffuser le cri. Oui.
Quelle va être la suite du CRI? On a compris que tu allais quitter la rédaction en chef si ça continue à ce rythme, ou non, peut-être mais... réduire ta production au sein de Mediapart, je sais pas.
Oui, non, je disais simplement que là, j'avais pas réalisé quand on a lancé l'idée que faire un premier numéro de revue, c'est faire une maquette, c'est discuter d'un tunnel d'abonnement, c'est faire travailler ensemble une maison d'édition en sciences humaines, papier. C'est-à-dire que à Mediapart, ils ont redécouvert le terme de BAT, de bon à tirer. C'est-à-dire que moi, quand fin avril, je leur ai dit bon maintenant il faut faire le BAT parce que ça part la semaine prochaine à l'imprimeur et que d'habitude ils sont capables de changer les titres même quand l'article vient d'être publié. J'ai senti un petit moment de stress. Donc voilà, ce que je dis, c'est simplement ce que j'espère. Et là, pour le moment, le crieur marche très bien en librairie, les ventes sont bonnes. C'est que on va pouvoir se concentrer sur les papiers et pas faire en plus. Il y avait quand même beaucoup de choses matérielles. Maintenant, on a enfin bien sûr qu'on va changer les couleurs et tout, mais on a une maquette. Et puis ce qui est assez bien, c'est que là, depuis c'est sorti le 11 juin dernier, on reçoit pas mal de propositions. Là aussi, on a au début été un peu sollicité des gens, c'est-à-dire qu'on avait à la fois des gens comme Grégoire Chamaillou, j'avais lu moi La Théorie du Drone, évidemment, je lui ai dit mais t'as pas un papier à nous proposer. Et puis il y avait des sujets comme l'art et l'argent ou comme Marcel Gauchet dont on s'est dit, on a été chercher des gens, tiens, qui pourrait écrire là-dessus. Là maintenant, j'espère qu'on va avoir aussi des propositions intéressantes.
Merci Joseph Confavreux. Donc la revue du Crieur, c'est aux éditions La Découverte, ça se trouve en librairie, ça peut se commander en ligne. Malheureusement, nos audiences africaines, c'est toujours un petit peu compliqué d'accéder. Peut-être qu'il arrivera dans certaines des librairies des capitales africaines, en tout cas on peut l'espérer. Le numéro 1 est sorti le 11 juin dernier, ça coûte 15 €. Le numéro 2, c'est dans quelques mois, 3 mois,
c'est
4 mois.
Mi-octobre a priori.
Merci, voilà. On trouvera toutes les infos, des liens complémentaires sur le site de L'Atelier des Médias. À bientôt.
L'Atelier des Médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Mahalouf.
Comment ça va?
Très bien, et toi?
Ça va très bien, merci beaucoup. Tu veux nous parler aujourd'hui de Hyperloop ou Hyperboucle? De quoi il s'agit?
Hyperloop est un projet délirant qui veut nous faire circuler à près de 1000 km à l'heure dans un tube. Il verra peut-être le jour dans les 3 ans qui viennent, c'est ça la surprise. Et il ne s'agit pour le moment que d'un test et personne n'a la certitude que l'essai sera transformé. Mais il y a déjà des centaines de personnes et des millions de dollars qui s'y emploient. Rappelons, si tu veux bien, qu'il s'agit d'une idée d'Elon Musk, qui est déjà patron de Tesla Motors, qui fabrique des voitures électriques de luxe, et de SpaceX, qui envoie des fusées dans l'espace et bientôt très loin. En juin 2013, il avait publié sur son site un white paper, c'est une sorte d'étude préliminaire, dans laquelle il proposait un moyen de transport révolutionnaire. Donc, un grand tube dans lequel les trains circuleraient comme des obus, pas loin de la vitesse du son. Il avait alors annoncé qu'il n'essaierait pas de le développer lui-même, mais que nous étions tous les bienvenus si nous voulions essayer. Ça avait tout l'air d'un projet à la Jules Verne qui ne verrait sans doute jamais le jour, ou peut-être dans quelques décennies. Mais c'est mal connaître l'appât du gain et l'esprit d'entreprise californien qui font si bon ménage quand il s'agit de lancer des projets complètement dingues.
Et j'imagine que tu veux dire par là qu'il y a des gens qui s'y sont mis.
Effectivement, et en ce milieu d'année 2015, on ne compte pas moins de 3 projets qui semblent décidés à tout faire pour tenter l'aventure et qui mettent le temps et l'argent voulus pour essayer. Je voudrais te parler de 2 d'entre eux. Je viens d'assister à Barcelone à une présentation dans un esprit showbiz qui ferait pâlir Steve Jobs par un type qui s'appelle Bebop Gresta, un ancien musicien. Il est arrivé sur la scène en dansant, il a déchaîné les hurrahs de la salle et il travaille pour une entreprise qui a l'air sérieuse, qui s'appelle Hyperloop Transportation Technologies, et qui va faire, dans les 2 années qui viennent, un test sur 5000, c'est-à-dire pas loin de 9 km en Californie. Il parle sans souci et sans la moindre hésitation de choses merveilleuses. Il le présente comme la solution à tous les problèmes. Par exemple, il estime que c'est le moyen de transport le plus économique de tout ce qui existe et qui peut même générer de l'électricité. Alors, à côté de ce projet très visible, si tu veux, très spectacle, il y a SpaceX, qui est la compagnie de Elon Musk, et qui lance un concours ouvert à tous pour faire un test sur 1 mile, 1 600 km au Texas. On peut poser sa candidature, poser des projets jusqu'en septembre. Il y aura une ouverture des travaux en janvier et les premiers tests devraient avoir lieu au cours de l'été 2016.
Et est-ce que tu crois que ce projet est réalisable?
Je crois que personne ne peut le dire avec certitude, mais tout indique qu'en tout cas l'essai sera tenté. Bebop a dit que son projet avait été crowdfundé, c'est-à-dire ouvert à la financement de tous les gens, à hauteur de 10 millions de dollars, et son patron a annoncé qu'il était décidé de se présenter en bourse l'an prochain pour lever 100 millions de dollars. Il pense, et ça qui est intéressant aussi, que l'anneau test sur 5 miles sera utilisé par 10 millions de visiteurs par an, ce qui devrait payer pour son installation. Quant à SpaceX, il commence plus petit, mais il a manifestement l'aval d'Elon Musk, ce qui est jusqu'à présent un critère de poids.
Merci Francis Pisani. On peut retrouver toutes tes chroniques sur ton site francispisani.net et sur ton blog en version audio et en version longue, ton blog de l'Atelier des médias. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Ziad.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 387 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Pour ne réentendre, c'est sur rfi.fr. Le titre de l'émission est Le printemps des médias numéro 2. Nous l'empruntons à Clara Schmeck. Clara organise ce samedi à Numa, rue du Caire à Paris, un événement sur le foisonnement de jeunes projets médias. Son nom, Le Printemps des médias. Vous trouverez un lien sur notre page Facebook et si vous vous rendez à Numa en début d'après-midi, vous risquez de nous croiser. Pour nous réentendre, c'est aussi sur SoundCloud et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir ou de vous déplacer dans la ville ou la campagne, vous faites bien. Partagez cette pratique autour de vous, le podcast, et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.